Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. Lors de nos émissions précédentes, nous avions tracé l'historique de Sega et Nintendo, mais ils n'étaient pas seuls sur le marché. À partir de maintenant et dans les prochaines émissions, nous parlerons du constructeur NEC. Fondé en 1899 par Iwadare Kunihiko, ancien employé d'Edison à New York, et l'entreprise américaine Western Electric, Nippon Denki Kabushi Kaisha, en anglais Nippon Electric Company, c'est plus simple comme ça, est historiquement la première entreprise à capital mixte japonais et étranger. Elle produit alors des téléphones et centraux téléphoniques et élargit ensuite son activité à l'électronique, semi-conducteurs, circuits intégrés et aux systèmes de communication par radio, par micro-ondes ou par câble sous-marin. À partir des années 1960, Nippon Electric Company se développe à l'international, Europe et Amérique du Nord, puis Asie, et sa production s'élargit de même dans la télécommunication, satellite, équipement de réseau informatique, puis la téléphonie mobile. Et surtout, ce qui va venir intéressant pour nous, rétro geek, les ordinateurs, supercalculateurs, PC et microprocesseurs. En 1983, le groupe change son nom anglais pour NEC Corporation, les initiales devenant Nippon Electric Corporation. En 1996, NEC rachète Packard Bell et fusionne son activité micro-ordinateur et serveur avec celle de ce constructeur en conservant les marques originales sur les marchés nord-américains et européens. Aujourd'hui implanté sur les 5 continents, NEC est toujours dirigé depuis le siège de Tokyo et présente sur tous les marchés boursiers majeurs du monde. La gamme d'activités actuelle est très large et va de la recherche fondamentale à la production dans tous les domaines de l'électronique, l'informatique et la télécommunication. Dans les années 80, revenons-y chers auditeurs, NEC Semiconductor était le premier fabricant mondial de semi-conducteurs loin devant Intel. NEC fut également un des premiers acteurs sur le marché des consoles de jeux entre 1987 et 1993. Avec les fameuses, rappelez-vous chers auditeurs, PC Engine, Super Graphics, Duo, Duo Air et j'en passe, avant d'abandonner le secteur face aux géants Sega et Nintendo, ces consoles avaient entre autres la particularité d'utiliser comme support des données s'appelant U-Card, des cartes au format carte de crédit dotées de connecteurs. Avant de continuer, entrons dans le vif du sujet avec les consoles de NEC et entre autres sa première console, la PC Engine. Connue sous le nom TurboGrafx-16 en Amérique du Nord, est une console de jeux vidéo 8 bits fabriquée par NEC Corporation et commercialisée à partir de 1987 au Japon. En dehors de son pays natal et du territoire nord-américain, la gamme de consoles a connu une existence relativement confidentielle car peu ou pas distribuée. En avance sur son temps, la PC Engine possède un processeur central 8 bits et un processeur graphique 16 bits. Ainsi, elle est considérée comme une console de 4e génération, au même titre que la Mega Drive et la Super Nintendo. Conçue pour être modulaire et évolutive, c'est aussi la première console de jeu de l'histoire à utiliser dès décembre 1988 le support des CD-ROM, bien avant Sega avec son Mega CD, qui sortira de manière mondiale à partir de 1989. Après le premier modèle d'origine, elle fut déclinée dans de nombreuses versions pour finir par accepter 4 formats de jeux différents. U-Card, CD-ROM appelé 2, Super CD-ROM et Arcade CD-ROM. Résultant de la collaboration entre l'éditeur Hudson Soft et le fabricant de matériel électronique NEC, la PC Engine apparaît dès 87 au Japon, puis en 89 en Amérique du Nord, recarrossée et rebaptisée TurboGrafx-16, bien que son microprocesseur central est bel et bien 8 bits, comme dit en introduction. Le marketing de la branche américaine l'a fait passer pour une console 16 bits, afin de rivaliser avec les consoles de marque concurrente, la Genesis de Sega surtout. Concurrente de la NES de Nintendo et de la Master System de Sega qu'elle devançait techniquement et même parfois en termes de vente au Japon, la PC Engine console hybride 8-16 bits a plus souvent été comparée aux 16 bits Super Nintendo et Sega Mega Drive tant la qualité de ses jeux était grande. Finalement, elle connut le succès principalement au Japon car faute de bonne distribution, sa carrière dans le reste du monde est restée marginale. Elle a été déclinée en 12 versions jusqu'en 1994, dont la célèbre PC Engine GT, deuxième console portable au monde après la Lynx d'Atari à utiliser un écran couleur rétroéclairé. Nous reviendrons sur l'histoire de NEC et ses consoles géniales et en avance sur son temps dans une prochaine émission. Rise from your grave. La rubrique, le jeu du jour. Aujourd'hui, chers auditeurs, dans notre jeu rétro du jour, James Bond 007 The Duel sur Mega Drive. Et oui, une fois encore, c'est une vedette qui rend visite à notre petite console préférée pour vivre de nouvelles et trépidantes aventures. Trépidantes et surtout meurtrières. Vos missions consistent dans la majeure partie des cas à libérer de jeunes et séduisantes jeunes femmes, toutes ces ravissantes créatures pour lesquelles le héros de Ian Fleming a un penchant plus que prononcé, sont retenus en otage par des bandes de terroristes organisées autour d'un méga complexe hyper armé, genre Teddy et Patoche qui vous attendent dans les studios de Radio Ornithorynque. James commencera par s'infiltrer à l'intérieur du bateau plutôt que dans les studios. Véritable forteresse à lui tout seul, les choses seront ici fort simples. Avec quelques jeunes femmes à libérer, une bombe à récupérer et à poser au bon endroit, James, le géant aux dents d'acier à rencontrer et le sous-marin à prendre. Facile, non ? C'est ensuite la seconde mission dans la forêt avant de vous retrouver dans d'étranges souterrains ou dans une série de laboratoires bien mal fréquentés. Et le jeu en lui-même, me direz-vous, chers amis rétro ? Eh bien, les décors selon lesquels qu'est trop peu nombreuses missions ne varient que peu et c'est assez dommage. D'autant plus que les couleurs ont été choisies avec peu de soin. Ce n'est pas une horreur, on en est fort heureusement encore loin. Mais on ne crie pas au chef-d'œuvre. Pour contrebalancer ce petit inconvénient, le jeu propose une action soutenue, en partie due aux ennemis qui ressurgissent sans cesse. Même une fois abattus, il ne fait pas bon repasser deux fois au même endroit. Les diamants sont peut-être éternels, mais certainement pas votre nombre de vie. Vous avez vu le petit jeu de mots, diamant éternel ? Eh oui, petit clin d'œil au film des années 80 de James Bond. Alors, lorsque l'on sait qu'il n'y a ni continu ni mot de passe, on imagine que le jeu ne se termine pas d'une seule traite, surtout que le niveau de difficulté de jeu est relativement élevé. Les débutants seront certainement vite rebutés, alors que les spécialistes, les plus patients du moins, seront trouvés dans ce James Bond un plaisir véritable. Le grand point noir de ce James Bond étant la maniabilité qui est dangereusement vôtre et un bon baiser de l'enfer. Eh, vous avez vu les clins d'œil, les amis ? Moi, sur ce jeu... Sur le son, on retrouve le thème de James Bond 007 et les musiques en cours de jeu ont la pêche. Seuls les bruitages déçoivent. Graphisme, les couleurs ne sont pas particulièrement bien choisies et les sprites sont en nombre trop peu limité. Une animation, en revanche, ultra fluide et des scrollings différentiels de toute beauté. Moi, ce jeu, à titre personnel, je lui donne la note de 69%. Eh oui, parce que c'est un jeu très moyen, mais qu'on peut trouver en état complet à notre époque pour moins de 15€. Donc pour ceux qui sont fans de la série, jetez-vous dessus.
Ornithorynque 90.2 FM.
La rétro interview sur le 90.2 FM. Bienvenue de nouveau dans une nouvelle rétro-interview sur le 90.2 FM et aujourd'hui, je reçois un tout jeune rétro-gamer. Salut Thomas.
Salut, bonjour.
Il n'est pas habitué, c'est normal. Dis-moi Thomas, quel âge as-tu ? Parce qu'on entend une petite voix jeune derrière le micro.
J'ai 13 ans.
T'as 13 ans ? Oh là là, bah, qu'est-ce que tu fais dans une émission de vieux schnock comme nous, de rétro-gaming ?
Bah, je collectionne les vieux jeux vidéo et je joue aux vieux jeux vidéo.
Tu joues aux vieux jeux vidéo, alors ça c'est intéressant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta collection ?
Du Sega, du Nintendo.
Ah, alors, et quoi dans le Sega et le Nintendo ?
Du Sonic, du Shinobi.
Et en console, tu as quoi ?
De la Mega Drive.
D'accord.
De la Saturn, de la Game Boy.
La Saturn, ça c'est bien. Alors dis-moi Thomas, qu'est-ce que tu trouves de bien dans les vieux jeux par rapport aux nouveaux jeux ?
Les musiques et puis la beauté des décors.
D'accord, tu trouves ça plus joli que les nouveaux ?
Ouais.
Ah, ça c'est étonnant, ça c'est étonnant. Comme quoi le rétro gaming c'est l'avenir, chers auditeurs, c'est l'avenir. C'est bien Thomas, c'est bien. Alors dis-moi, quel est ton jeu préféré et sur quel support ?
Sur Mega Drive, Shinobi 3.
Sur Mega Drive, Shinobi 3, d'accord. Qu'est-ce que tu trouves bien dans Shinobi 3 ?
La beauté du jeu, avec les monstres qui explosent et tout ça.
Ouais, c'est vrai que ce jeu est tout simplement génial. Je suis bien d'accord avec toi. Très bien, Thomas. T'as combien de jeux ?
330.
Ouh là 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 là, et c'est précis, 330 précis.
Ouais.
Alors, tout support, est-ce que t'as des consoles portables ?
Oui.
Tu as quoi ?
Game Boy.
T'as des Game Boy. Bon, très bien. T'as quoi comme Game Boy ?
La Game Boy Color, la Game Boy Pocket, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP.
La Game Boy Advance SP, c'est quoi ta préférée ?
Game Boy Advance SP.
D'accord. De quoi t'es venue cette passion des vieux jeux, Thomas, plutôt que des nouveaux ? De ton papa, ta maman, ton frère
Je sais pas, le style des années 80, ça m'a donné envie.
Le style des années 80. Alors ça, c'est rigolo à 13 ans de parler du style des années 80. Donc en fait, c'est plus complet que le rétro. T'aimes bien quoi aussi dans tout ce qui est...
Les musiques.
Les musiques. Les jeux, les jouets un peu.
Oui.
D'accord. Ah, ça, c'est bien. Et t'as quoi comme jouet, dis-moi ?
De vieux.
Hum ?
Des figurines.
D'accord, des figurines de quoi?
Chevalier du Zodiac.
Chevalier du Zodiac, d'accord.
Dragon Ball Z.
Ok.
Et les maîtres de l'univers.
Et les maîtres de l'univers. Ah ben ça, c'est bien, Thomas. Alors ça, c'est rigolo. Donc, depuis combien de temps tu collectionnes les vieux jeux?
3 ans.
3 ans, donc depuis l'âge de 10 ans.
Ouais.
Et en fait, donc, t'as ça comment? C'est les Noël, les anniversaires?
Noël, anniversaire.
D'accord. Donc, tu demandes de l'argent pour acheter les vieilles consoles.
Ouais.
C'est génial. C'est génial. Très bien, Thomas. Quelque chose d'autre à rajouter?
Non.
Non, rien de plus? Tu peux dire bonjour ou au revoir à nos auditeurs maintenant.
Au revoir.
Au revoir. Très bien. Eh bien, à bientôt, Thomas. Et à bientôt sur le 90.2 FM pour une nouvelle rétro-interview. Salut.
Salut.
Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !